À voix nue, cette semaine, Zoé Sfez rencontre José Dayan. Ce soir, le petit Balzac.
Bonsoir José Dayan.
Bonsoir Zoé.
Merci beaucoup de nous recevoir chez vous dans cet appartement assez fou. On est dans le 9e à Paris.
Oui, absolument.
Il y a beaucoup, beaucoup de choses au mur et beaucoup de choses partout. On va en parler. Alors, vous, José Dayan, on vous surnomme, beaucoup d'interviews, des grands titres, la reine de l'audimat, le Balzac du petit écran, mastodonte des audiences. Vous êtes productrice, on va en parler, mais vous êtes surtout réalisatrice à la télévision, mais aussi au cinéma. On vous doit, alors j'ai essayé de compter, c'est très compliqué, plus d'une centaine au moins de films.
Ah, je pense 150, oui.
150, oui. Entre 150 et 170,
voilà,
si on compte les épisodes de séries comme des films en eux-mêmes. Téléfilms, séries, dizaines, vingtaines de millions de téléspectateurs cumulés. Là, on doit même atteindre les 100 millions. Des adaptations des très grands chefs-d'œuvre de la littérature. Alors, je suis obligée de les citer parce que le grand public vous connaît pour ça. Le Comte de Monte-Cristo, c'était en 98. Les Misérables en 2000. Les Rois Maudits en 2005. Les Liaisons Dangereuses. Des grandes séries françaises qui fonctionnent extrêmement bien. Capitaine Marlowe, c'est le cœur de ce que vous faites aujourd'hui. Mais au-delà des audiences, vous avez eu la caractéristique de faire venir les plus grands acteurs français à la télévision.
Ça, c'est vrai et ça me touche beaucoup qu'ils soient venus. En particulier, le premier qui est venu, c'est Gérard Depardieu, bien sûr. Et d'ailleurs, à sa demande. Mais c'est un métier, vous savez, de désir. Alors, il faut se sentir aimé et il faut aimer.
On va parler du désir, justement. Le désir, on sent qu'il est quand même quasiment industriel chez vous. C'est incroyable parce que vous tournez strictement tout le temps. Il y a une forme d'obsession du tournage chez vous,
oui,
d'ogresse du tournage.
Je suis quelqu'un d'assez obsessionnel. Vous savez, dans les portraits chinois, là, si j'étais une musique, je serais Philippe Glass. Répétitif, obsédé, obsession de tourner, oui, j'aime tourner.
Vous avez fait d'autres choses qu'on sait moins de vous. Vous avez été l'auteur de plusieurs films de cinéma, vous avez fait de la mise en scène d'opéra, et vous êtes l'autrice d'un documentaire, le seul à ma connaissance, sur Simone de Beauvoir.
J'ai fait deux documentaires, même trois. J'ai fait un documentaire évidemment sur Simone de Beauvoir, qui était un long métrage d'ailleurs. J'ai fait un documentaire sur Maurice Béjart, qui s'appelait Moudra, entre autres. Et puis j'ai fait un documentaire sur les transsexuels qui s'appelait « Nous n'irons plus au bois ». Je fais très peu de documentaires parce qu'en vérité je n'aime que les acteurs, les actrices et la fiction.
On en parle demain de ces documentaires, mais ce soir j'aimerais qu'on comprenne un petit peu d'où il vient ce désir fou de tourner. Et vous parliez du désir, vous parliez de l'obsession. Dans la plupart des interviews que vous donnez, parce que ça c'est une autre de vos caractéristiques, vous faites partie des rares réalisateurs, a fortiori qui travaillent essentiellement à la télévision, à être devenu une figure publique, c'est très rare. Vous parlez, vous donnez votre parole, et dans quasiment toutes les interviews que vous donnez, vous parlez de la mort.
Ben, la mort, hélas, fait partie de la vie. On est obligé de penser à la mort, bien sûr. Comme elle ne prévient pas, elle arrive, comme dirait Barbara. Alors il faut toujours se tenir prêt. Et dans ce cas-là, il faut toujours faire ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire. Je ne suis pas du tout à l'aise avec l'idée de la mort. Parce que moi, j'aime la vie, j'aime tourner. Et puis, il y a quelques personnes que j'aime de façon incroyable et dont la mort me dévasterait. D'ailleurs, plus que ma propre mort.
Alors, vous êtes né en 43, José Dayan. Vous êtes né en France et vous avez grandi à Alger. Vous êtes né à Toulouse?
Je suis né à Toulouse pendant la guerre parce que mon père chantait au Capitole de Toulouse. Et je m'appelle José parce qu'il chantait Carmen le soir où je suis né. Voilà. Son professeur, c'était Pierre Nougaro, qui était toulousain donc, et qui l'avait fait engager au Capitole de Toulouse. Et puis, le jour de mes 1 an, je suis retourné à Alger.
Parce que
et parce que mes parents étaient originaires d'Alger et j'ai vécu là-bas jusqu'à 17 ans, enfin jusqu'à l'indépendance en fait.
Alors ce père qui chantait au Capitole de Toulouse, c'est une figure en lui-même.
Oui,
assez
c'était
folle.
C'était un homme merveilleux, c'était un rêveur, c'était un type formidable. Voilà, je l'ai adoré. On a vécu des moments extraordinaires ensemble. C'est-à-dire que par exemple, c'est lui qui m'a fait faire l'école buissonnière. Et ça, je trouvais ça merveilleux. C'est-à-dire que le matin, puisque en effet, j'étais en Algérie, donc il y avait cette guerre qui était présente. Vous savez, le terrorisme, c'est pas comme une guerre officielle. C'est-à-dire que ça peut éclater à n'importe quel instant. C'est aussi pour ça que j'ai cette notion très proche de la mort, parce que dès l'enfance, j'ai vu des gens disparaître d'une seconde à l'autre, vous voyez, les bombes, et les attentats, etc. Donc, mon père m'accompagnait au lycée, et puis quand on arrivait devant la porte du lycée, il me disait, mais tu préférais pas venir, parce qu'il a créé la télévision d'Alger aussi, tu préférais pas venir à la télé voir des tournages, etc. Ben, je disais, oui, bien sûr, j'ai fait beaucoup d'écoles buissonnières avec mon père, je suis pratiquement jamais allé en classe, mais au moment où j'ai reçu ma convocation pour passer le bac, parce qu'en fait, j'avais des certificats médicaux que mon père me produisait. Il m'a dit, mais j'ai dit, écoute, mais c'est quoi ça? Ben, c'est la convocation pour le bac, donc je vais pas le passer. Il m'a dit, mais bien sûr que oui, tu vas le passer parce que tu es ma fille. Et c'est parce que tu n'es pas allé en classe que tu n'es pas apte à le passer. C'est vrai que je l'ai passé. Je me suis dit, je vais échouer parce que je me souviens que, à l'époque, il y avait deux bacs. Et le lendemain, ou le surlendemain des résultats du bac à Alger, il y avait écrit dans l'écho d'Alger 60% d'échecs. J'ai dit, tu vois, les autres sont allés en classe, moi pas. Mais je l'ai eu. Donc j'étais assez fier, j'ai passé mon deuxième bac à Paris. Comme j'ai eu 18 sur 20 en philo, qui avait un coefficient très fort, ben, j'ai eu aussi le deuxième bac, voilà. Sans aller en classe, c'était pas mal.
Sans aller en classe, ça vous a donné, me semble-t-il, une forme de goût pour la rapidité. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer des heures pour réussir quelque chose.
La lenteur me fatigue, la lenteur me tue. Et j'aime la rapidité, j'aime tourner vite, j'aime l'urgence, quoi, voilà. J'aime être au bord d'un précipice et ne pas y tomber.
Pour en revenir à votre père, comment était cette vie en Algérie, au-delà de cette école secondaire ?
Il paraît. Par exemple, mes parents me disaient que la vie en Algérie était merveilleuse. Mais pour moi, la vie en Algérie, c'était un cauchemar. Parce qu'il y avait cette guerre omniprésente. Parce que, comme il y avait cette guerre, nous, on avait une villa, les pieds dans l'eau. Et mon père ne voulait pas que j'allais me baigner parce qu'il y avait souvent des bombes sur les plages. Donc, je vivais au bord de la mer et je ne sais pas nager. Je nage très très mal. Je ne pouvais pas traverser une rue seule parce qu'il avait peur qu'il y ait une bombe. Enfin, j'étais surprotégée, si vous voulez. Et cette surprotection, c'était évidemment un handicap quand d'un seul coup, on se retrouve tout seul à Paris à 18 ans et qu'on ne sait pas traverser une rue. Voilà, c'était... Et puis, au-delà de ça, il y avait... Pour cette période de mon enfance et de mon adolescence, il y avait des conflits très violents entre mon père et ma mère. Donc, si vous voulez, il y avait la guerre à la maison, et puis il y avait la guerre autour. J'ai toujours dit que si je faisais un jour un film sur mon enfance en Algérie, en vérité, c'est le conflit familial qui serait fixé avec une focale très nette, et la guerre d'Algérie serait floue. En arrière-plan, en environnement, si vous voulez. Mais ce qui était pour moi plus violent, c'est évidemment la relation entre mon père et ma mère et ses deux parents qui chacun me tiraient l'un vers l'autre. Moi, c'est vrai que j'avais beaucoup plus d'affinité avec mon père et j'en avais aucune avec ma mère. C'était une période assez violente pour moi.
Votre mère pharmacienne qui, oui, vous dites ne buvez pas, ne fumez pas, mangez des légumes bouillis.
Ah oui, oh là là, et puis elle allait faire des cures à Évian, à Vittel, à Dax, et elle m'emmenait avec elle tous les étés. Et c'était un cauchemar, c'était un double cauchemar. D'abord parce que je déteste les villes de cure, parce que j'étais avec elle et j'étais pas avec mon père. Et parce qu'enfin, alors ma seule révolte à l'époque, c'était quand j'étais à Évian de demander du Vittel, et quand j'étais à Vittel de demander de l'Évian. Vous voyez, c'était une petite révolte, quoi.
Le nom de votre famille, c'est Dayan ou c'est Danian?
Non, c'est Dayan, D-A-Y-A-N.
Pourquoi est-ce qu'on connaît votre père sous le nom de Danian ?
Parce que quand mon père chantait au Capitole de Toulouse pendant la guerre et qu'il y avait l'occupation allemande, il valait mieux pas qu'il s'appelle Danian. Parce qu'en fait, Danian, c'est évidemment un nom juif, mais mon père n'est pas juif. Parce que on est juif normalement par sa mère, et sa mère était napolitaine catholique. Et son père était juif de Tétouan. Et mes grands-parents avaient convenu que leurs enfants choisiraient leur religion à la majorité. Donc mon grand-père a été hyper cool, il n'a pas fait baptiser ses fils, donc pas circoncire. Et ma grand-mère, qui était napolitaine catholique, entourée de bondieuseries, de curés, de saintes vierges, de tout ce que vous voulez de ce type-là, tous les ans amenait un de ses enfants à Naples et le faisait baptiser. Voilà.
un petit peu en cachette, quoi.
Ah ben totalement, en disant, faut pas le dire à papa. Et donc, quand mon père a été arrêté à Toulouse par la Gestapo, il n'était pas circoncis et il a fait venir son certificat de baptême de Naples. Donc, ça l'a sauvé.
Et vous, il vous est resté quoi de cette transmission ?
Moi, il m'est resté que je me sens napolitaine. Uniquement napolitaine.
Uniquement napolitaine ?
Ah oui.
Le café ?
Le café, l'Italie.
L'opéra ?
L'opéra, les pâtes. Oui, je me sens... Si vous voulez, j'ai aucun sentiment cocardier. Et je ne sais pas pourquoi, quand j'arrive en Italie, et en particulier à Naples, j'ai le cœur qui bat, quoi. Voilà. Il y a quelque chose, pour moi, de très très fort avec l'Italie. Vous savez, on dit que, finalement, c'est dans les premières années de son enfance que la personnalité se forme. Alors, ma grand-mère est morte. Elle avait un très beau nom, elle s'appelait Anna De Crescenzo. Elle est morte quand j'avais 7 ou 8 ans, mais je l'ai adorée, et je passais beaucoup de temps avec elle. Alors, elle avait deux cinémas. Donc, le cinéma, c'était lié à mon enfance. Elle était diabétique, donc elle était souvent allongée, avec des piqûres d'insuline. Et je passais mes après-midi à jouer aux cartes avec elle. J'adore jouer aux cartes. Elle me disait le matin, sur le coup de 9h du matin, « Allez, on va, je vais te faire un petit-déj. Allez, je vais te faire deux spaghettis. » Et je mangeais des spaghettis à 9h du matin. Je trouvais ça génial.
Votre grand-mère, c'était aussi le cinéma. Ça, vous
le dites depuis... Quand mon grand-père est mort, elle a dû vendre la pharmacie, puisqu'une pharmacie, on ne peut la posséder que quand on a un diplôme. Bon, ses fils, le premier était avocat, le second était architecte, sa fille était prof, et mon père avait 14 ans. Bon. Donc, elle a vendu la pharmacie de mon grand-père, et elle a acheté deux cinémas.
C'est incroyable, ça correspondait à quoi ? Parce que c'était une période où le cinéma était extrêmement présent et très vivace partout. C'était là qu'on allait regarder l'actualité, c'était un lieu de sociabilité, de vie. Ça correspondait à quoi pour une veuve d'acheter deux cinémas ?
Eh bien parce qu'elle ne pouvait pas acheter une pharmacie. Donc elle avait envie d'acheter du cinéma et elle avait raison. Donc bref, comme la guerre d'Algérie arrive, qu'il y a évidemment le couvre-feu, qu'il y a des bombes dans les lieux de spectacle, moi je suis interdite de cinéma aussi. Bon. Donc, mon père obtient du projectionniste de ma grand-mère, en étant payé en heure sup, que le cinéma, une fois fermé, on me fasse des projections pour moi toute seule. Ce qui fait que depuis l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 16 ans, j'ai eu une salle de cinéma privée et où j'avais des projections de films tout le temps. Et c'était génial.
Parce que pour votre père, c'était primordial, en fait.
Pour mon père et pour moi.
Dès 5 ans.
Oui. J'ai toujours su que je voulais faire du cinéma, la mise en scène. Voilà.
En les voyant ou avec votre père ?
Ah non, 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 en les voyant. Mais je voyais souvent seul les films. Parce qu'en plus, j'étais encore une fois, comme Philippe Glass, assez obsessionnel. C'est-à-dire que quand j'aimais un film, je voulais le voir 14 fois. Donc les gens n'en pouvaient plus. Donc ils m'accompagnaient une fois et puis après, ça allait, quoi.
Est-ce que vous arrivez à vous rappeler, c'est un exercice extrêmement compliqué et probablement impossible, de vos tout premiers souvenirs du cinéma ?
Oui, je me souviens d'avoir vu Gilda, que j'ai adoré. Je me souviens d'avoir vu « Quand passe les cigognes », que j'ai adoré aussi. Et je me souviens d'avoir vu un film qui m'a fasciné, qui s'appelait « Le grand Caruso », parce que j'aimais l'opéra, avec Mario Lanza. Celui-là, je crois que je l'ai vu 18 fois, oui. « Le grand Caruso », sur la vie de Caruso.
Alors qu'est-ce qu'on regardait comme film à Alger ? Qu'est-ce qui diffusait les cinémas ?
Tous les films français.
Tous les films français.
Américains, enfin tout ce qu'il y avait après-guerre. Et puis, il y a eu la télévision qui a été créée. Et alors là, à la télévision, il y avait très souvent dans l'après-midi des films égyptiens qui étaient à la fois des grands mélos ou alors qui étaient des comédies musicales. Donc évidemment, je regardais ça aussi avec béatitude. Et puis, il y avait aussi beaucoup de grands mélos italiens. Les avec Silvana Pampanini et Leonora Rossi-Drago, avec tout ça, voilà. C'était bien.
Vous quittez ensuite l'Algérie.
Ouais.
Et vous passez donc votre deuxième bachot à Paris.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, je fais propédeutique, je fais une préparation à Sciences Po, je fais deux ans de droit, tout ça m'ennuie à périr, et je fais l'IDEC. Voilà, et je commence alors une vie d'assistant, de stagiaire, d'assistant, et puis quand j'ai, je crois, 26 ans, 27 ans, je commence à réaliser mon premier film. Voilà.
Alors l'IDEC, ancêtre de la FEMIS, à quoi ça ressemblait à l'époque, la formation au cinéma ?
Ah, c'était un peu particulier, parce qu'en vérité, il y avait une devise, il souhaitait tenir le public hors des salles, parce qu'il fallait que le cinéma soit élitiste, vous voyez, donc...
Là, on est dans quelles années ?
Un peu con, quoi. Ben, 62, 63, oui. très prétentieux, quoi.
Et qui étaient les élèves ? Vous étiez beaucoup de femmes ou pas ?
Non, on était très peu de femmes. Et je m'en souviens plus très bien.
Vous avez occulté un peu ?
Oui.
Ça a duré combien de temps ?
3 ans.
Long. Et donc, qu'est-ce qu'on vous apprenait ? Pratique ? Technique ? Quel enseignement c'était ?
Non, on nous apprenait des trucs, on nous faisait lire beaucoup. Sur les scénarios, sur la construction d'un scénario. Puis on voyait beaucoup de films, on devait faire des critiques de films, des analyses, voilà.
Quand vous êtes sortie, vous avez commencé donc à être assistante.
Bien sûr.
Société française de production.
J'étais assistante de Claude Chabrol, de Jean Delannoy, d'André Hunebelle, bien sûr. Et puis après, à la télévision, de mandarins comme Lourcet, comme Kergeron, comme tous ces gens-là, voilà.
Qu'est-ce que vous avez appris quand vous étiez assistante ? Puisque du coup, vous nous dites que le texte n'était pas grand-chose.
J'ai appris énormément. On n'apprend pas des metteurs en scène avec lesquels on tourne, parce que il suffirait d'être l'assistante Fellini pour être Fellini demain. Non. Simplement, j'ai appris formidablement tous les arcanes de mon métier, si vous voulez. C'est pour ça, d'ailleurs, moi qui suis impatiente, j'ai décidé de rester assistante 10 ans. Parce que je voulais tout savoir. Je voulais savoir comment se passait une régie, comment se passaient les costumes, la déco, les plans de travail, enfin tout ça, si vous voulez, et l'ambiance, les techniciens. Ce qui fait que quand moi j'ai fait mon premier film, parce que j'ai assisté, quand j'étais assistante aussi, à beaucoup de premiers films où les techniciens tentaient de prendre le pouvoir, aucun technicien n'a jamais pris le pouvoir avec moi sur un tournage. Parce que quand je disais, par exemple, je veux un travelling de 25 mètres, et qu'on me disait, parce que sous prétexte que c'était mon premier film, il faut 3 quarts d'heure, je disais non, il faut 25 minutes et je le sais. Et il savait que je savais, donc ça s'est arrêté très vite.
Vous avez assisté donc ces réalisateurs qui étaient très différents. Delannoy à Chabrol,
ça oui, rien c'est à ça, voir. C'était un grand écart, oui. Ah ben Delannoy, c'était un metteur en scène. Il était protestant, il était très taiseux, il était terriblement précis, maniaque même de précision. Très courtois, très bien élevé, on aurait dit une espèce de pasteur plutôt. Et il arrivait, il disait, voilà, vous mettez la caméra à 15 cm du sol, à 23 cm de l'acteur, avec la focale 32 par exemple. Voilà, c'était ça. Et moi, je me souviens, j'étais assistante avec lui sur Les Amitiés particulières de Roger Perfitte. Mmh. Et on avait tourné dans l'abbaye de Royaumont. Et il y avait un espèce d'immense bureau qui était le bureau d'un supérieur dans cette histoire-là et qui était interprété par Louis Seignier. Mmh. Il arrive le matin et il trouve que le parquet n'est pas assez brillant. Et alors, moi, je demande à l'accessoiriste de nettoyer le parquet, puis ça n'allait pas assez vite, ça ne plaisait pas. Et moi, qui n'avais jamais de ma vie pris un balai dans ma vie privée, si vous voulez, je me suis mis à nettoyer avec rage et avec énergie ce parquet pour qu'on puisse tourner. Et je me souviens que la seule plaisanterie de Delannoy avec moi, c'est qu'il m'appelait la marquise d'Ossédar.
Et ça, alors, cette histoire de la précision chez Delannoy, par exemple, versus, et ça c'est légendaire, mais vous allez nous en parler, l'improvisation totale, par exemple, chez Chabrol. Qu'est-ce que vous avez tiré de
mais
ça
moi, je pense que le travail d'un assistant, c'est absolument de se mettre dans le diapason du metteur en scène qui l'assiste. C'est-à-dire que quand j'étais avec Delannoy, j'étais d'une précision mathématique, et avec Chabrol, eh ben, je le suivais, parce que c'est ça qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce que j'en ai appris, moi, comme metteur en scène ? Je ne suis pas du tout aussi méticuleuse que Delannoy, parce que j'aime qu'il y ait un peu d'improvisation, si vous voulez. J'aime que les accidents du tournage servent dans un film pour apporter une espèce de fraîcheur. Voilà. À la fois, je suis quand même plus précise que n'était Chabrol, en tout cas au moment où moi j'étais son assistante. Parce que moi j'étais assistante de Chabrol au moment où il tournait la série des Tigres avec Roger Hanin. Je pense que c'était des films auxquels il ne croyait pas beaucoup et qu'il avait fait pour des raisons alimentaires. Donc je pense qu'il était totalement... il était en roue libre, quoi. Et je crois qu'il en rajoutait même. Ça le rassurait d'une certaine manière. Voilà, mais il était drôle. Je me souviens d'une anecdote avec lui. On tournait justement un tigre et on tournait dans une espèce de petite campagne qui devait être à 50 ou 60 km de Paris. Et on arrive et il me dit « Mais où est Mario David ?» Moi, je dis « Mais il n'est pas là, monsieur. » Il me dit « Mais trouvez-le. » Alors, je me jette sur le scénario, je regarde les séquences, et on tournait les séquences, mettons, de 90 à 103, par exemple. Et je vois que Mario David est mort en séquence 50. Alors,
il n'est plus là.
Et je lui dis, mais monsieur, Mario David est mort en séquence 50. Il me regarde, il dit, on peut le ressusciter. Voilà, voilà, ça c'était Chabrol et c'était génial.
Ce métier d'assistant, du coup, vous le pratiquez en vous mettant donc, au service totalement du réalisateur. Mais j'ai quand même l'impression aussi que le rôle et même le statut de l'assistant a un peu changé, du premier assistant réalisateur, a un peu changé entre cette période-là et aujourd'hui. À l'époque, les assistants devenaient vraiment réalisateurs, alors qu'aujourd'hui, c'est presque devenu une profession en soi.
Est-ce que c'est vrai ? Oui, comme en Amérique. Mais c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire, quand on est assistant, d'être metteur en scène. Par exemple, moi, j'ai un assistant que j'adore, qui est un assistant merveilleux, qui est plus qu'un assistant, qui est un collaborateur, qui s'appelle Paolo Trotta. Je crois qu'il a 55 ou 58 ans. Il continue d'être assistant parce qu'il a décidé d'être assistant. Voilà.
Vous, qu'est-ce qui se passe ? À quel moment vous décidez que ça y est, c'est bon ?
Ah, je décide le jour... Oui, vous savez, j'avais un chat que j'adorais, qui était génial, qui était un chat à arrêt. J'avais une maison en forêt de Compiègne, et un jour, la mère de ce chat vient chez nous, elle accouche de ce chat, qui était visiblement un chat de la forêt, donc il était sauvage. Bon, il était tout tigré, il était extraordinaire, d'ailleurs, il avait un instinct incroyable. J'ai adoré ce chat, il m'a adoré. Une espèce de passion avec ce chat. Le chat que j'ai préféré dans ma vie. Mmh. Et il est mort à mon retour des Misérables, justement. Je tournais à Prague et quand je suis arrivé, il avait un cancer, comme ça, donc bon, il est mort. Et alors ce chat, un jour, on l'avait laissé à la campagne et il avait été dévasté par le voisin qui lui avait tiré dessus, ou je sais pas quoi. Bon, parce qu'il était très particulier, rentrait partout, etc. Et donc je suis allé le chercher, je l'ai amené chez le vétérinaire et on lui a mis un plâtre et un pansement, et le vétérinaire a dit, dans 60 jours, on va enlever ce pansement. Bon. Et puis, donc, je l'ai amené chez moi à Paris, et j'avais un chien, un lévrier. Alors, ce lévrier, un grand lévrier, un greyhound, lui a couru après, d'autant plus que ce pauvre chat était handicapé avec son pansement à la patte. Donc, j'ai enfermé ce chat dans ma chambre, en lui donnant à manger dans la chambre, etc., pour le séparer de ce lévrier. Et un jour, j'arrive, c'était le 60e jour, mais moi, je ne le savais pas. Et quand j'ouvre la porte de ma chambre, je vois le plâtre et le pansement défait. Le chat l'avait défait parce qu'il savait que c'était le 60e jour. Eh bien, moi, c'était pareil. J'ai décidé de faire La famille Boussardel, qui était un énorme feuilleton de 10 épisodes, pour clôturer en beauté, si vous voulez, ma vie d'assistant. Et j'ai compris à la fin de ce film que c'était le dernier. J'ai toujours dit que je serais que metteur en scène dans ma vie. Soit je suis milliardaire, et je continue de faire des films et j'en fais encore plus parce que je produis les films que j'ai envie de faire. Soit je peux pas faire de films et je suis clodo et je suis pas milliardaire parce que je veux faire des films et rien d'autre. Voilà. Ça, encore une fois, monomaniaque. Mais j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu vivre dans une ferme en Afrique avec des animaux africains. J'aime beaucoup les animaux, en fait. J'ai une phobie horrible des oiseaux. Je peux pas avoir une plume. Je peux pas entendre un chant d'oiseau. Avenue Georges V, face où était Armédia avant, mon agence, il y avait un parking. Quand on était dans l'ascenseur, il y avait des chants d'oiseaux. Mais j'aurais cassé l'ascenseur pour en sortir. Je ne peux pas voir une photo d'oiseau. Au moment de Noël, quand on passe devant les boucheries, qu'on voit les animaux morts, là, pendus avec des plumes, tout ça, je ne peux pas. Je ne peux pas manger un morceau de poulet. Enfin, j'ai une phobie.
Ça vient d'où, ça, hein ?
Ça vient du fait que ma grand-mère, pas ma grand-mère napolitaine, mais mon autre grand-mère, la mère de ma mère, avait une très jolie maison à la campagne sur les hauteurs d'Alger. Et moi, j'avais un coq, qui était mon animal de compagnie. Alors, je parlais avec lui, je dormais avec lui, j'avais une voiture à pédale, je lui mettais les ailes, comme ça, il conduisait la voiture avec moi. Enfin, bon, bref. Donc, c'était un ami. Puis un jour, je suis arrivé, il n'était pas là. D'habitude, il était sur le perron. J'ai dit, il est où ? Ma grand-mère a dit, il est parti. Je dis, mais comment il est parti ? Il ne m'a pas écrit, parce que moi, je parlais avec lui, évidemment. Bon. Alors, à midi, elle m'a donné du poulet à manger. J'ai mangé du poulet. Et puis, quand je me suis déplacé, elle avait une très grande maison, donc il y a un très, très grand couloir. Au bout du couloir, je suis arrivé dans la cuisine. Et il était blanc, ce coq. Et j'ai vu les plumes blanches du coq qui sortaient de la poubelle. Je devais avoir 4 ans. Ma grand-mère est morte à 99 ans. Je n'y ai plus jamais parlé. Et depuis ce jour-là, si j'ouvre un journal, je vois une photo de Rossignol, je peux m'évanouir. Moi, j'aime beaucoup les voitures décapotables, donc je roule souvent en décapotable. Et si un oiseau me passe au-dessus de la tête, je ferme les yeux, je peux avoir un accident. C'est une phobie D'ailleurs, j'en ai parlé avec Joël Star quand j'ai tourné avec lui, qui est un type merveilleux, que j'aime beaucoup, beaucoup, très talentueux. Et Joël Star, on lui a fait pareil avec son lapin. Et ben ça, c'est un truc qu'on n'oublie pas. Donc, mais j'aime tous les animaux autrement.
José Dayan, quel est ce premier projet que vous faites en tant que réalisatrice?
Le premier
Premier.
Je suis assistante par hasard sur une émission musicale à Prades avec Pablo Casals. Et Isaac Stern. Et je ne faisais jamais ce type d'émission, mais l'assistant tombe malade, on me demande d'y aller, je vais à Prades. Je crois que j'étais à Avignon. J'avais une voiture décapotable, blanche, une MG blanche, je me souviens, et un pull-over.
Vous souriez quand vous en parlez.
Le pâle, à col roulé. Ça a une importance. Je roule assez vite, je vais pour freiner, et j'encastre ma voiture dans une borne qui s'appelle Malmort. Et je tape ma tête sur l'avant de mon pare-brise, puisque c'était décapoté, donc sur le métal, et j'ai le front entièrement ouvert. Alors, je vais chez le premier médecin venu, et il y avait dans la salle d'attente plein de gens qui venaient parce qu'ils avaient mal au foie depuis 10 ans, etc., etc. Et moi, j'avais le sang qui coulait sur ce pull bleu, donc c'était, on aurait dit, le film de Godard, Pierrot le Fou, à la fin. Quoi. C'était une image comme ça, emblématique. Et je vois ce médecin qui sort de son cabinet, je lui dis, je suis en sang, je rentre dans sa salle, et le type dégueulasse, détestable, me dit, bon, ben, je vais vous recoudre, et me recoud sans anesthésie, potage. Pousse des hurlements, et je m'en vais. Et là-dessus, je pars à Prades. Avec mon pansement. Donc, finalement, j'étais évidemment très repérable parce que j'avais un énorme pansement blanc sur la tête. Et le producteur de cette émission, c'était Bernard Gavotti. Et donc, moi, je fais cette émission. Et puis, à la fin, on discute comme ça, lui et moi. Il me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Alors, je lui dis, mal mort, je raconte, etc. Et puis, j'ai plus de voiture. Et puis, il n'y a plus de train pour retourner chercher ma voiture, etc. Il me dit, mais moi, je vous ramène en voiture si vous voulez. Et je pars avec lui, donc on a 10 heures de route. Pendant ces 10 heures de trajet, évidemment, je raconte que je fais jamais de reportage, ni de trucs musicaux, que, bien qu'aimant la musique, que moi je veux faire de la fiction, que je vais être metteur en scène, etc., etc., etc. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Je décide d'arrêter d'être assistante. Je me dis, bon, j'ai travaillé sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Je pars me reposer au Maroc. Je rentre à l'hôtel et on me dit, il y a un télégramme pour vous. Appelez tel numéro à Paris. Et c'était Bernard Gavotti. Il me dit, il y a la troisième chaîne qui se crée. On me demande de faire une émission musicale. Si vous voulez la faire, vous êtes la bienvenue. Voilà comment ça s'est passé. C'est grâce à cet accident. Et mon premier film, c'était à Senlis. Et ça s'appelait Le professeur de piano. Et alors, j'ai eu la chance que ce film soit diffusé le jour de l'ouverture de la chaîne 3. Et il y a eu un article immense disant que ce professeur de piano était miraculeux. Donc voilà comment ça a commencé.
Merci José Dayan.
Et je vous en prie.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Zoé Sfez avec José Dayan. À voix nue, réalisation Laurent Polleré, prise de son Arthur Dumont, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.